J'aimerais parler sur les héros de la foi dans Hébreux chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé de la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit « En Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom ». Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi, il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration. Amen. Le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux nous mentionne une série de héros de la foi qui nous ont précédés. Ce sont des exemples dans la persévérance, des exemples de frères et sœurs qui ont persévéré malgré l'obscurité. Ils ont tous un point commun, c'est qu'ils ont appris à marcher non par la vue, mais par la foi. Et pour nous, ils sont un exemple de marche par la foi. Nous qui avons accepté Jésus, nous sommes nés de nouveau, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Mais voyez, quand un bébé vient au monde, bien, il ne sait pas encore marcher tout de suite, il doit faire des progrès, il va commencer à se déplacer en rampant, puis petit à petit, il va marcher, il va faire ses premiers pas, il va apprendre à marcher. Si le bébé doit apprendre à marcher et ensuite il va courir quand il va grandir, devenir un enfant, eh bien, le chrétien, il doit apprendre à marcher, mais par la foi, parce que nous avons tous été des bébés spirituels et nous devons tous grandir pour marcher par la foi et devenir matures dans la foi. Alors, l'auteur aux Hébreux, ici, commence par une belle définition de la foi. Il le dit au verset 1. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et je retiendrai deux mots de cette définition. Le premier mot, c'est la ferme assurance. C'est quelque chose qui est certain. La foi, ce n'est pas dans le vague. La foi, ce n'est pas simplement une croyance religieuse. Il y a beaucoup de gens qui se disent croyants, croyants, mais ils croient d'une manière vague. La foi est plus que la croyance. La croyance, peut-être, vous fait estimer qu'il y a quelque chose après la mort. Il y a toute forme de croyance. Mais la foi, c'est une ferme assurance, c'est-à-dire, je sais en qui j'ai cru. Je sais que lorsque je vais quitter cette terre, le Seigneur a préparé une place pour moi dans le ciel. Cette ferme assurance, elle est surnaturelle, elle vient de Dieu, elle est plantée dans nos cœurs. Le deuxième mot de cette définition, c'est la démonstration. Parce que la foi qui se vit dans le cœur, elle se voit dans nos actes. La foi, elle se voit dans notre manière de vivre. Si vous avez la foi, il y a des choses que vous ne ferez plus, il y a des nouvelles choses que vous ferez. Si vous avez la foi, vous n'allez pas vous conformer au monde présent, mais vous allez chercher à plaire à Dieu et à suivre les enseignements de la parole de Dieu. Au verset 2, il dit que les anciens, c'est-à-dire les croyants qui nous ont précédés dans les siècles passés, ont obtenu un témoignage favorable. Il dit que les croyants qui nous ont précédés, parce qu'ils avaient la foi, étaient approuvés de Dieu. Approuvés de Dieu. Si vous marchez par la foi, vous allez plaire à Dieu et vous serez approuvés de Dieu. Mais si vous cherchez à plaire au monde et à marcher comme le monde, bien, vous aurez votre récompense. C'est Jésus qui le dit dans Matthieu 6, verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Ils ont leur récompense, c'est quoi leur récompense? Ils ont cherché la gloire des hommes, ils ont cherché les avantages de ce monde, peut-être les reconnaissances humaines, eh bien, ils ont eu leur récompense. Mais en tout cas, en ce qui concerne la récompense de Dieu, ils ne l'ont pas eue. Parce que cette récompense-là, elle vient pour ceux qui ont la foi et qui ont un cœur tourné vers Dieu. Le verset 3, la foi implique maintenant de croire que Dieu a tout créé par sa parole. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été créé par Dieu. C'est assez fascinant de considérer que Dieu a tout créé à partir de rien. Dieu n'a besoin de rien pour faire quelque chose. Nous, les êtres humains, on a toujours besoin de matériaux pour faire quelque chose. Mais Dieu a parlé et l'univers s'est mis en ordre. Du néant, Dieu a fait surgir l'univers. C'est assez énorme, l'univers, quand on considère l'univers, c'est plus de 100 milliards de galaxies visibles, mais beaucoup qu'on ne voit pas. Et le plus troublant, même pour les scientifiques encore aujourd'hui qui étudient l'origine de l'univers, parce que ça pose beaucoup de questions sur le commencement, pourquoi y a-t-il l'univers, comment est-il arrivé? Le plus troublant, c'est les scientifiques, ils ont découvert qu'à l'origine de la matière et de l'univers, il y avait un réglage avec des lois physiques tout à fait précises qui préexistaient. Mais qui a donc placé ces lois dans l'univers? Alors pour les scientifiques, c'est un mystère, parce que les lois ne peuvent pas venir toutes seules comme ça, d'un coup, surgir du néant. Mais elles étaient là, elles existaient, elles préexistaient. Et ça fait poser beaucoup de questions. Comment ça se fait qu'il y avait cet ordre? Comment ça se fait qu'il y avait ces lois qui ne peuvent pas être dues au hasard, mais qui sont tellement précises que si vous changez un seul paramètre, il n'y a pas d'univers. Donc, quand vous croyez dans le hasard, vous êtes obligé de dire que tout ça est venu tout seul. C'est pourquoi Ralph Challis a écrit un livre dont le titre est « Il faut beaucoup de foi pour être athée ». Pour ne pas croire en Dieu, il faut croire des choses incroyables. Alors, c'est ce qu'il dit ici, nous qui sommes chrétiens, nous disons « c'est par la foi ». Et ce matin, nous reconnaissons que Dieu a tout créé par sa parole puissante. Et il dit un mot et la chose arrive. Et puis, il y a un autre élément dans ce même verset qui est aussi important. L'auteur dit que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ça veut dire que avant qu'il y ait le visible, il y avait l'invisible. Et Dieu a tout conçu dans l'invisible. Avant même la création, il a fait un plan. Et dans ce plan, il a tout prévu. Il a fait un plan et nous avons le plan, en fait, qui est expliqué dans la parole de Dieu. Tout a été conçu dans l'invisible, de sorte qu'une fois que Dieu a conçu son plan dans l'invisible, De l'invisible est venu le visible, et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. L'univers est donc une création qui a été planifiée par Dieu. Nous arrivons au verset 4, c'est les héros de la foi qui commencent avec Abel. Abel est le premier représentant de cette liste de héros de la foi. Abel représente le croyant qui adore par la foi. Abel nous montre le chemin de la véritable adoration. Son nom signifie « souffle, vapeur, ce qui monte », c'est-à-dire ce qui est tourné vers Dieu. Déjà, son nom est tourné vers Dieu. Son sacrifice a été plus excellent que celui de Caïn, au verset 4. Pourquoi ? Parce qu'il a offert les premiers-nés de son troupeau. C'est-à-dire qu'il a compris que le sang versé allait avoir un impact. Et c'était par le sang versé qu'on est pardonné de nos péchés. Il avait compris ça. Il l'avait compris parce que Adam et Ève, quelque temps auparavant, avaient péché. Et la Bible dit que Dieu les a couverts de vêtements de peau. Donc il y a eu un animal qui avait été sacrifié pour les couvrir. Et ce vêtement de peau évoquait le sacrifice de l'animal. C'est spirituel, ça représente les sacrifices d'animaux, le sang qui va couvrir le péché. Abel avait compris cela. Et Dieu a vu dans le cœur d'Abel qu'il y avait la foi. Il y avait la foi. Vous voyez au verset 4, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice. Son sacrifice était plus excellent, non seulement parce que c'était bien l'animal innocent qui était offert en sacrifice, mais parce que Dieu a trouvé la foi dans le cœur d'Abel. Dieu a vu dans son cœur quelque chose qu'il n'a pas vu dans le cœur de Caïn. Caïn, lui, l'a offert les fruits de la terre. Mais surtout, dans son cœur, il n'y avait pas cette foi. Il y avait de la rébellion, il y avait du péché, et il ne plaisait pas à Dieu. Donc Dieu voit dans nos cœurs, il voit celui qui a la foi, et il voit celui qui est réfractaire. Abel, lui, nous montre le chemin de la véritable adoration. Ça veut dire que toutes les formes d'adoration qui existent sur la terre ne plaisent pas à Dieu nécessairement, car Dieu veut voir la foi dans nos cœurs. Lorsque Jésus va rencontrer la femme samaritaine, il va lui expliquer ce que c'est la véritable adoration. La femme samaritaine qui est au bord du puits, elle pose la question à Jésus, mais nos ancêtres ont dit qu'il faut adorer sur cette montagne, c'est-à-dire sur le mont Garizim. Les Samaritains avaient construit un temple et ils adoraient Dieu sur le mont Garizim. Alors elle demande au Seigneur, nous, nos ancêtres, ils disent qu'il faut adorer sur cette montagne, le mont Garizim, là où il y a un temple des Samaritains. Et vous, les Juifs, vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. Alors, quelle est la véritable adoration ? Et Jésus lui répond dans Jacques 4, 23, que la véritable adoration ne dépend pas du lieu, mais dépend d'un état d'esprit. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adore en esprit et en vérité. Et Jésus va parler des vrais adorateurs. Donc, l'adoration ne dépend pas du lieu, mais dépend de notre relation avec Dieu. Si notre relation est bonne, si nous avons la foi, nous sommes de vrais adorateurs, alors nous pouvons adorer en tout lieu. David aussi, bien avant, demandait à Dieu de sonder son cœur quand il venait dans sa présence. Il dit au psaume 139, 23, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. » Voilà comment on s'approche de Dieu avec un cœur pur, avec un cœur éprouvé. « Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Et c'est bon d'aller dans la présence de Dieu en présentant nos cœurs et en demandant au Seigneur de nous sonder et de sonder nos cœurs pour qu'on soit en harmonie avec Dieu. Si Dieu sonde nos cœurs aujourd'hui, que va-t-il y trouver ? Alors, parfois, il y a de la jalousie, il y a de la méchanceté, il y a de l'amertume, il y a des remords, il y a toutes sortes de colères. Eh bien, si nous venons adorer avec ce cœur qui n'est pas tourné vers Dieu, mais qui est rempli de péché, eh bien, ça va être une adoration formelle. Alors, nous allons adorer parce que nous allons dire quelques mots à Dieu. Mais Dieu n'y voit pas la foi, il n'y voit pas la sincérité de cœur, il n'y voit pas la repentance. C'est un petit peu comme l'adoration de Caïn qui vient avec son cœur rempli de jalousie, rempli de haine devant Dieu. Il fait son adoration, il offre les fruits de la terre, mais il n'obtient pas la bénédiction de Dieu. Voyez, c'est important de s'accorder avec Dieu. Quand on est musicien, par exemple, un guitariste, il doit prendre le temps d'accorder son instrument avant de jouer avec un groupe. Pourquoi ? Parce que la guitare a des cordes qui se désaccordent avec le temps. Elles se désaccordent à cause de la chaleur, à cause du froid. Il ne suffit pas de jouer de la guitare, il faut prendre le temps de s'accorder. Bien, avec Dieu, c'est pareil. Si vous voulez adorer, il vous faut prendre le temps de vous accorder sur la tonalité de Dieu. Il y a une tonalité de Dieu. Elle n'est pas... Dieu n'accepte pas n'importe quelle adoration. Donc, il faut déjà s'accorder sur notre adoration. Est-ce qu'elle est ? Est-ce que nous avons la foi ? Est-ce que nous sommes en communion avec Dieu ? Si on ne prend pas le temps de s'accorder sur la tonalité de Dieu, alors on va adorer, oui, mais comme Caïn. Caïn, il a adoré Dieu avec ses offrandes charnelles, avec les fruits de la terre, et ça n'a pas porté grand-chose. L'offrande de Caïn représente vraiment les moyens humains de s'approcher de Dieu, parce que c'est les fruits de la terre. Caïn signifie acquisition, possession, achat. C'est l'image de la religion, c'est le fruit de ses œuvres, des œuvres humaines. Et on sait très bien que le chemin des œuvres est une impasse. Éphésiens 2:8, Paul nous le rappelle, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. On retrouve la foi qui est nécessaire. La grâce ne suffit pas. La grâce ne sauve pas directement s'il n'y a pas la foi. Mais par la foi, donc si on adore par la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. On ne peut pas adorer Dieu en mettant en avant nos mérites, nos œuvres, à la manière de Caïn. Caïn n'avait pas pris le temps de développer une communion avec Dieu. Oui, il voulait adorer, c'est bien. Oui, il voulait apporter à Dieu son offrande, c'est bien. Mais il n'a pas pris le temps de s'accorder avec Dieu. Son cœur était mauvais. Son cœur n'était pas en harmonie avec Dieu. Et c'est écrit dans 1 Jean 3:12 que Caïn était du malin. C'est-à-dire qu'il n'avait pas laissé la place à Dieu dans son cœur. Et le texte dit que ses œuvres étaient mauvaises. Tandis que les œuvres de son frère étaient justes. Pourquoi ? Parce que son frère avait la foi. Et donc, le fruit de la foi, c'est les œuvres. Mais en aucun cas, les œuvres de Caïn pouvaient plaire à Dieu sans la foi. Si notre cœur est mauvais, si notre cœur n'est pas rempli de repentance et de foi, bien, notre adoration ne pourra pas plaire à Dieu. Et nous ne pourrons produire que des œuvres mauvaises. Même si cette adoration semble valable parce que les mots sont justes, parce qu'on a dit les bonnes choses, mais le cœur n'y est pas, et donc l'adoration n'aboutira pas. La qualité de l'adoration dépend de la source. La source fait qu'il y a un bon résultat ou un mauvais résultat. Jacques 3:11 dit ceci, « La source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère ?» La source, si la source est bonne, l'adoration sera bonne. C'est pourquoi Abel nous montre le chemin de la véritable adoration, c'est la foi. Abel parle même encore aujourd'hui, quoique mort, car il nous a laissé un message de fidélité, un message d'obéissance à Dieu. Et nous, frères et sœurs, qui sommes là sur cette terre, nous laissons un message aussi. Nous laissons un témoignage. Est-ce que nous laissons un témoignage d'amour, amour pour Dieu, ou est-ce que nous laissons un témoignage d'amour pour le monde comme Caïn ? C'est la question qui est posée. On retient le témoignage. Démas a été un des collaborateurs de Paul, donc il a servi dans l'œuvre de Dieu, il a fait des grandes et belles choses. Mais ce qu'on retient de son témoignage, c'est que Paul dit que par amour pour le siècle présent, il m'a abandonné. Son témoignage a été finalement négatif. Il parle encore aujourd'hui son témoignage. On peut comparer Abel, qui parle avec son témoignage d'adoration et de foi, et on parlera du témoignage de Démas comme celui qui a abandonné la foi, qui a abandonné l'apôtre Paul, qui s'est détourné de la foi par amour pour le siècle présent. Donc, on laissera toujours un témoignage. Eh bien, prions pour que nous laissions chacun un bon témoignage à la gloire de Dieu. La foi nous permet aussi une plus grande compréhension du mystère de la révélation de Dieu, car c'est par la foi qu'Abel a compris comment on pouvait adorer Dieu, que Dieu nous aide aussi à adorer de la bonne manière. Le deuxième personnage ici mentionné, c'est Hénoc au verset 5 et 6. Enoch qui a été enlevé à la rencontre de Dieu. Enoch représente donc les croyants qui seront enlevés par la foi à la rencontre du Seigneur quand il reviendra. Enoch a vécu 300 ans à l'époque où il vivait, donc 300 ans, bon, finalement c'est assez jeune par rapport à l'âge moyen de l'époque. Si on remonte aux premiers hommes, ils avaient en moyenne dans les 900 ans, jusqu'à 969 pour Methuselah. Et donc 300 ans, ça faisait un tiers de vie. Si on rapporte à nos âges à nous, ça ferait une trentaine d'années en gros. Une trentaine d'années par rapport à 100 ans ou 90 ans. Et donc 300 ans, ben, il est dit dans la Genèse qu'il marcha avec Dieu, et c'est ça qui est souligné, c'est ça qui fera notre témoignage. Il marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, car Dieu le prit. Et ça, c'est un événement qui va survenir sur la terre. C'est que l'Église qui marche avec Dieu, si vous marchez avec Dieu, un jour, Jésus reviendra et vous prendra avec lui, si vous avez la foi. Parce que le texte dit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Donc la seule condition pour être enlevé à la rencontre du Seigneur, c'est la foi. Mais cet événement, il arrive, et c'est pourquoi l'Église du Seigneur doit être prête au retour de Jésus. Ça viendra d'une manière soudaine, rapide. 1 Thessaloniciens 4:16, c'est Paul qui en parle, il explique bien comment ça va se passer. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront, premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Vous retrouvez le mot ici, enlevé. Enoch a été enlevé parce qu'il marchait avec Dieu. Dans la fin des temps, l'Église de Jésus-Christ, c'est-à-dire les véritables croyants nés de nouveau, seront enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est la promesse du Seigneur. Et la foi sera déterminante. C'est-à-dire, ce n'est pas le fait de venir à l'Église qui fait qu'on sera enlevé. Ce n'est pas le fait d'appartenir à une religion, de faire des œuvres, des pèlerinages, mais c'est d'avoir la foi. Donc, quelle que soit notre religion, mais surtout si nous sommes chrétiens, bien sûr, si nous avons la foi, surtout si nous avons la foi et si nous sommes nés de nouveau, alors nous avons l'assurance que nous avons ce passeport pour aller au ciel, c'est la foi. Et nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur. Un peu comme aujourd'hui, si vous voulez aller aux États-Unis, il vous faut un passeport en bonne et due forme, parce qu'ils vont le contrôler. Et à l'embarquement, s'il y a un défaut, si vous n'êtes pas à jour, vous ne monterez pas dans l'avion, vous ne pourrez pas partir. Eh bien, le jour où le Seigneur reviendra, la foi va être le moyen de contrôle. Ça sera comme le passeport. S'il n'y a pas la foi, vous ne monterez pas au ciel, vous n'irez pas dans la présence de Dieu. La foi, c'est indispensable pour faire partie de ce voyage céleste. La foi, c'est même le seul moyen d'être agréable à Dieu. Voyez cette belle définition au verset 6. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Vous ne pourrez pas être agréé de Dieu. Sans la foi, il n'y a pas d'accès au ciel. Et la foi nous permet de nous attendre à cet événement qui arrive, l'enlèvement de l'Église, eh bien, c'est une promesse qui est dans nos cœurs et le retour de Jésus, nous y croyons, c'est pour bientôt. Ésaïe chapitre 6, verset 3. Vous voyez déjà dans les prophètes de l'Ancien Testament, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel, sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il y a des certitudes, il y a des garanties, le Seigneur l'a promis, il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Voilà pour Enoch. Personnage suivant, au verset 7, c'est Noé. Noé est bien connu, c'est celui qui représente les croyants qui obéissent par la foi. Il va construire une arche, c'est-à-dire un immense bateau. C'est une construction tout à fait incroyable. Un chantier naval, 150 mètres de long, 25 mètres de large et 15 mètres de haut. Un énorme bateau. Surtout que Noé n'avait jamais construit de bateau. Il n'était même pas, ce n'était pas son métier. Il n'y avait pas d'eau autour de lui. Donc les chrétiens passent parfois pour des fous dans ce monde parce qu'ils choisissent d'obéir à Dieu et ils font des choses que Dieu leur demande. Mais c'est Dieu qui a demandé à Noé de construire ce bateau. Les gens qui voyaient Noé prenaient Noé pour un fou. Ils disaient, mais il n'y a pas d'eau. Mais pourquoi il construit un bateau? Ça n'a pas de sens. Noé passait pour un fou. Pourquoi les chrétiens passent pour des fous? Parce qu'ils ont une autre vision. Les chrétiens, ils regardent vers Dieu. Ils regardent, ils ont la foi. Ils écoutent la parole de Dieu. Ils prient. Ils s'attendent aux miracles. Donc, ils sont considérés comme des fous par rapport à ce monde. Mais Jésus l'a expliqué, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes plus du monde. Vous n'avez plus la mentalité du monde. C'est pourquoi vous avez la foi. Heureusement pour Noé et sa famille, Dieu a donné à Noé tous les plans. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, il nous faut suivre les instructions que Dieu donne. Il ne suffit pas d'écouter Dieu, mais il faut faire ce que Dieu dit à la lettre. C'est-à-dire, il a dit à Noé les dimensions, comment ça devait être fait, avec quel bois. Et tout a été précis. Voilà comment ça se passe avec Dieu. Dieu fournit le plan. Et Noé a été le prédicateur de la justice. Il y a un petit détail dans la Genèse qui dit que la porte de l'arche est restée ouverte pendant 7 jours avant que Dieu la ferme. Ce n'est pas Noé qui a fermé la porte, c'est Dieu qui a fermé la porte de l'arche. Pourquoi 7 jours? Ça laisse un délai de grâce. Il y a eu un délai de grâce avant le jugement qui est tombé quand même, le déluge. Mais quand la porte était fermée, ça veut dire que la grâce, c'est fini. Ça veut dire que tant que la porte était ouverte, il y avait encore possibilité d'entrer dans l'arche. Mais les gens se moquaient de Noé qui était dans cette arche. Ils n'ont pas cru. Eh bien, l'arche est vraiment l'image de la croix aujourd'hui. L'arche, il faut venir, comme il fallait rentrer dans l'arche pour être sauvé du déluge, il faut venir à la croix pour être sauvé de ses péchés et pardonné. C'est le seul moyen de salut. Sans la croix, vous ne pouvez pas être sauvé, comme à l'époque, si vous n'étiez pas dans l'arche, vous ne pouviez pas être sauvé du déluge. Vous devez simplement vous repentir et croire que Jésus vous sauve. Ça, c'est la foi qui vous sauve. Alors, le déluge, c'est aussi une image du baptême dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 20. Pierre écrit, « Lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau, cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. » Seulement 8 ont cru dans les paroles de Dieu, c'était Noé et sa famille. Ils sont rentrés dans l'arche, la porte a été fermée, et le déluge maintenant représente le baptême. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez accepté Jésus, vous êtes venu à la croix, vous avez demandé pardon pour vos péchés, il reste quelque chose à faire qui vous est demandé dans la parole de Dieu. C'est d'accepter de vous engager par le baptême d'eau, c'est-à-dire un baptême par immersion, être plongé dans l'eau. Et le baptême signifie renoncer à sa vie de péché, sa vie passée, et renaître à la vie nouvelle. Quand vous êtes dans l'eau, c'est comme si vous mouriez à votre vie passée. Et quand vous sortez de l'eau, c'est comme si vous ressuscitez à la vie nouvelle avec Dieu. Alors, si vous avez accepté Jésus, vous êtes passé par la croix, mais vous avez fait la première étape. Il y a une deuxième étape qui est demandée dans la parole, c'est de se faire baptiser. Celui qui croira, dit Jésus, et qui sera baptisé. Deuxième étape, il sera sauvé. Cette étape est importante. En vous baptisant, ici, il est dit que le baptême, c'est un engagement, vous voyez à la fin du verset 21, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Le baptême, c'est un engagement. Un bébé, des fois, il y a des églises qui baptisent les bébés, il ne peut pas s'engager d'une bonne conscience parce qu'il n'a pas la conscience, justement, de ce qui se passe. Il n'est même pas conscient qu'il est baptisé. Mais le baptême, le véritable baptême, comme il est enseigné dans la Bible, il est fait par une personne qui s'est repentie de ses péchés, qui a cru. Maintenant, cette personne est consciente et elle va consciemment s'engager par le baptême, alors qu'elle se fait baptiser, mais consciemment, elle s'engage à suivre Jésus. C'est ça, le sens du baptême. Ce n'est pas juste être plongé dans l'eau pour obéir à Dieu, mais c'est en même temps que je suis plongé dans l'eau, je m'engage à suivre Jésus tous les jours de ma vie. Donc, en vous baptisant, vous renoncez au monde et au péché, et en même temps, vous vous engagez à suivre Dieu et à le servir, et vous attacher à la parole. C'est bien ça le sens du baptême, et c'est ça qui fait qu'on est vraiment dans les voies de Dieu et qu'on plaît à Dieu. Voilà, pour Noé, par la foi, il nous montre l'obéissance, construction d'une arche, l'obéissance d'entrer dans l'arche, le seul moyen de salut, pour nous c'est la croix. L'obéissance par le déluge, pour nous c'est le baptême. Donc c'est vraiment une vie marquée par l'obéissance à la parole de Dieu. Et le quatrième personnage qui est mentionné, c'est Abraham, des versets 8 à 19. Abraham qui lui représente maintenant les croyants qui vont persévérer dans la foi. Puisqu'il a été appelé par Dieu lorsqu'il était à Ur en Chaldée, un pays confortable, où il avait tout la maison et tout le confort possible. Et Dieu l'a appelé à quitter Ur en Chaldée pour se rendre en Canaan. Pour aller de Ur à Canaan, il y a à peu près 1500 km, mais il fallait surtout aller de lieu en lieu en montant la tente pour dormir, démontant le lendemain, partir, remonter la tente. Donc c'était une vie de nomade, étape après étape. Et lorsque Jésus est venu sur la terre, il a appelé des disciples à le suivre. Les premiers disciples. Les premiers disciples ont renoncé à leur confort pour suivre Jésus d'étape en étape. Jésus n'avait pas de lieu où reposer sa tête. Encore aujourd'hui, pour suivre Jésus, il faut renoncer à un certain confort, le confort que le monde propose, c'est-à-dire la tranquillité, s'occuper de soi et ne pas s'intéresser à ce que Dieu veut. Ça, c'est le confort. Mais Dieu nous demande de quitter ce confort pour faire sa volonté, pour le suivre, pour obéir à sa parole. Donc Abraham a répondu à l'appel. Abraham est parti, la Bible dit, sans savoir où il allait. C'est-à-dire qu'il n'avait pas toutes les indications, et c'est ainsi que nous avançons dans la vie chrétienne. On n'a pas tous les tenants, les aboutissants, mais on sait que Dieu nous dirige, et on prie pour qu'il nous dirige dans la bonne direction. Donc Abraham a été conduit, et nous, nous devons faire confiance à Dieu. Mais surtout, comme Abraham, nous devons faire le premier pas. Quand il est sorti de chez lui, ben, il a fait son premier pas et il demandait à Dieu de le diriger. Et derrière le pays promis, ce qui est intéressant dans ce texte, c'est qu'il dit qu'Abraham, il attendait des choses derrière le pays promis, des choses invisibles, autre chose. Il dit qu'il attendait la cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Il avait donc une vision spirituelle. Ce qui le faisait avancer, ce n'était pas simplement une terre matérielle, terrestre, humaine, qu'on pouvait toucher. Mais ce qui le faisait avancer, c'est la foi dans Dieu qui allait donner une cité céleste, c'est-à-dire la vie éternelle, la vie avec Dieu. C'était spirituel. Il avait une vision qui n'était pas matérielle. Le pays, c'est sûr, c'était bien le pays. Mais il avait une vision au-delà du pays qui était celle de Dieu. Et pour nous aussi, il y a une destinée éternelle et spirituelle. Merci Seigneur pour les bénédictions temporelles. C'est très bien, on peut avoir des grandes bénédictions de Dieu. Mais c'est pas, nos yeux ne doivent pas être fixés sur les bénédictions, mais sur le Dieu qui donne la bénédiction et qui va au-delà. Si nous n'avons pas cette vision spirituelle, qu'est-ce qui va se passer ? On va devenir matérialiste et on va revenir en arrière. Ça aurait pu être le cas d'Abraham. Et le texte dit qu'il n'est pas retourné en arrière, mais qu'il a continué à marcher par la foi. Sa vision était donc spirituelle. Sans vision spirituelle, vous n'avancerez pas dans le royaume de Dieu, vous arrêterez, et puis vous vous arrêterez là où vous êtes, finalement, parce que c'est cette vision-là qui l'a fait avancer par la foi. Au verset 11, Sarah était incapable d'avoir des enfants, elle était stérile, mais le texte dit que Dieu l'a rendue capable. Eh bien, je crois que Dieu peut faire la même chose. Aujourd'hui, il nous rend capables de faire des choses que nous ne pouvons pas faire, qui sont impossibles là, actuellement. Mais Dieu nous rend capables parce qu'il est tout-puissant. Il ouvre les portes pour nous. Peut-être en regardant votre situation, vous dites, je ne suis pas capable, j'y arriverai pas. Mais Dieu vous rendra capable de le faire parce que si c'est sa volonté, il fera le chemin et il fera le miracle. Verset 15. Abraham a conservé la vision. S'il avait eu en vue, donc c'est Abraham ici, Abraham et les croyants, s'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. C'est-à-dire, Abraham était sorti dur en Chaldée. S'il avait eu le désir de retourner là-bas, si sa vision était là-bas, il aurait pu y retourner, mais ses yeux étaient ailleurs, vers le Seigneur. Il n'a pas choisi de retourner en arrière. Et ça parle de tous ceux qui commencent la marche. Vous êtes nés de nouveau, vous êtes enfants de Dieu. vous devez garder la vision et pas retourner en arrière. Abraham n'est pas parti tout seul, il est parti avec Lot, sa famille, mais aussi Térakh, son père. Et la Bible dit que Térakh est allé à peu près aux deux tiers du parcours, c'est-à-dire jusqu'à Charan. C'était les deux tiers du parcours, il restait encore un tiers à accomplir pour aller en Canaan. Et Charan, Térakh s'est arrêté à Charan. Térakh s'est arrêté à Charan, ça a été une tentation pour Abraham de rester aussi. Mais il a attendu un temps, mais après, Térakh, il est mort, parce qu'il était déjà âgé, et il aurait dû poursuivre jusqu'au bout et mourir là-bas en Canaan, mais il est mort à Charan, c'est-à-dire avant d'arriver au pays de la promesse, quand même. Pourquoi ? Parce que Charan, il représente le croyant qui ne va pas jusqu'au bout. Il s'est engagé, mais voilà, il se complaît à Charan. Charan, ce n'est pas Canaan. Mais ça lui plaît bien, ça lui complaît. C'était encore le pays d'où il venait, c'était encore sa culture. Mais il est mort à Charan. Il est mort à Charan. Jésus en parle dans Luc 9, 62 quand il dit « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Ne soyons pas comme des Térakh, parce que si on est comme Térakh, on va mourir. On va mourir avant d'avoir atteint la terre promise. Ce n'était pas le plan de Dieu. Il a regardé en arrière. Il a regretté peut-être Ur, il a préféré le monde et ses plaisirs, mais il y avait pour lui une autre destinée, c'était Canaan. La destinée pour nous, c'est la patrie céleste, c'est le ciel. Il ne faudrait pas s'arrêter avant, il ne suffit pas de commencer, il faut résister à l'idée de regarder en arrière, mais il faut garder les yeux sur Dieu qui est là-devant. Au verset 17, ça c'est l'épreuve ultime, c'est quand Dieu va demander à Abraham de lui donner son fils unique. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique. Lorsque Dieu s'adresse à Abraham, il lui dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. » C'est intéressant parce que à ce moment-là, Abraham a deux fils. Mais pour Dieu, il lui dit « Ton unique », c'est-à-dire l'enfant de la promesse, celui qui s'appelle Isaac. Celui que Dieu a donné à Sarah. Parce que Ismaël, il y a eu un arrangement avec Agar, la servante de Sarah, pour avoir cet enfant. Ce n'était pas l'enfant de la promesse. L'unique, c'est donc Isaac. Mais ce qui a été troublant, c'est que Dieu demande à Abraham de lui offrir en holocauste. Or, Dieu ne demande jamais d'offrir des êtres humains en holocauste. Il demande toujours des animaux partout, c'est des animaux. Jamais un être humain. Ça, c'était Moloch et les dieux des païens, ils offraient des êtres humains en sacrifice à leur dieu. Alors, quand il reçoit cette pensée, il doit renoncer à tout ce qu'il a compris, tout ce qu'il sait, et obéir par la foi sans comprendre, c'est l'épreuve de la foi. On peut dire qu'Abraham avait une foi hors du commun, parce que le texte dit qu'il croyait même, parce que lui, il était parti pour l'immoler, c'est-à-dire l'égorger, si on prend le texte littéralement. Il allait donc égorger son fils pour répandre le sang comme il aurait fait avec un animal. Mais le texte dit qu'il croyait en même temps que Dieu était assez puissant pour ressusciter son fils qu'il allait lui-même offrir en sacrifice. C'est énorme. Donc la foi d'Abraham était d'une dimension hors du commun. Et l'ange de l'Éternel a arrêté Abraham qui allait donc égorger son propre fils. Il a arrêté sa main et lui a dit « Non, arrête, il y a un bélier qui est préparé, c'est lui que tu vas offrir en sacrifice à la place d'Isaac. » Ce qui est bon avec Dieu, c'est qu'on peut être dans les pires épreuves, mais il y a déjà une solution qui n'est pas loin. Le bélier, il n'était pas loin. Abraham ne voyait pas la solution, il voyait lui qu'il allait égorger son fils, il ne savait même pas qu'il y avait un bélier qui était là, qui était tout prêt pour faire ce que Dieu avait demandé. Donc le bélier, il est déjà là, Abraham ne le sait pas. Frères et sœurs, la solution, elle est déjà préparée par Dieu. Nos yeux ne la voient pas encore, mais elle est déjà là. Faisons confiance au Seigneur. C'est vrai que c'est l'obscurité pour Abraham, il ne comprend pas. Mais c'est un très bel exemple de ce que Jésus a fait à la croix, parce que, en fait, ce sacrifice d'Isaac, qui a été substitué par un bélier, ça nous parle de Jésus qui vient prendre notre place aussi à la croix. Ça nous parle de la substitution, c'est-à-dire que ce n'est pas nous qui allons mourir à cause de nos péchés, Mais Jésus s'est interposé et il est venu. Il a étendu ses mains et il a dit, ben, non pas lui, non pas elle, mais moi je vais mourir à leur place. Et il est mort à notre place. Donc ce sacrifice par la foi nous parle aussi du sacrifice de Jésus qui est unique. Il n'y aura pas besoin de recommencer parce que Jésus est mort à la croix. Il a porté nos péchés et il les a effacés devant Dieu. On va prier un instant. On a vu ici quelques-uns des héros de la foi. Moi, je dirais que les héros de la foi, ils sont là encore aujourd'hui. Ce sont les croyants qui se lèvent et qui obéissent à Dieu. Alors, ici, des croyants ont laissé leur nom dans l'histoire. Ils sont connus, que ce soit Abel, Enoch, que ce soit Noé, Abraham et tant d'autres. Mais l'important, c'est d'avoir votre nom inscrit dans le livre de vie. Peut-être votre nom ne sera pas connu des journaux ou dans ce monde. Mais si votre nom est inscrit dans le livre de vie, je dirais que vous avez l'assurance d'avoir accès au ciel. Et c'est ça qui est important. On a vu, à travers de ces quatre premiers personnages, quatre aspects de la vie chrétienne. D'abord, trouver le chemin de l'adoration par la foi. Ensuite, l'obéissance par la foi. Ensuite, l'enlèvement au ciel par la foi. Et enfin, la persévérance par la foi. Voilà le schéma de la vie chrétienne qui est pour nous. Que Dieu nous aide à marcher par la foi. Merci encore pour ta parole. Merci pour ces conseils précieux qui nous montrent comment marcher dans ce monde incrédule, dans ce monde tourné vers les choses de la terre, les plaisirs de ce monde qui sont vains et futiles. Et nous voyons combien l'attachement au monde nous sépare de Dieu. L'attachement au monde même ne nous permet même pas d'avoir une adoration qui plaît à Dieu. L'attachement aux valeurs de ce monde et ses principes nous coupe de la communion avec Dieu. Merci pour ces exemples de persévérance, de cette obéissance de Noé qui a construit cette arche alors qu'il n'y avait aucun sens au niveau humain pour le faire, mais qu'il l'a reçu par révélation avec les plans. Merci pour la persévérance d'Abraham qui a continué à croire malgré que tout lui interdisait de croire. Il a continué à faire confiance alors que sa femme était stérile, alors qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant, mais Dieu a pourvu, Dieu a rendu capable. Seigneur, tu fais encore le miracle aujourd'hui et nous nous attendons à toi seul pour chacune de nos vies. Tu vois les combats, les difficultés, peut-être les situations d'obscurité, mais comme ce bélier qui était là, nous croyons que tu as déjà pourvu à une solution miraculeuse qui est caché à nos yeux aujourd'hui. Et nous te prions, Seigneur, ouvre nos yeux pour que nous puissions voir ta gloire, voir ta main, voir tes solutions, Seigneur, qui sont cachées aux hommes, mais que tu révèles à tes enfants. Merci de bénir chacun de nos cœurs dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.